il y a des choses qui dépassent notre compréhension, des choses que nous n'arrivons vraiment pas à cerner, non seulement dans ta création, mais dans ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nous voulons méditer sur ces choses, même si nous ne les comprenons pas de manière adéquate. Nous voulons les connaître, car tu l'as désiré pour nous. Et Seigneur, je prie simplement que tu parles à travers ce moment d'étude, que grâce à toi, grâce à ton esprit, nous soyons rappelés de la beauté de ce que tu as fait pour nous. Que nous soyons émerveillés par ton plan. Amen.
Amen. Amen.
Nous pourrions passer 40 minutes à méditer sur les paroles des chants que nous venons de chanter, et ce serait une bonne manière de passer notre temps. Mais Pierre m'a demandé de préparer quelque chose, donc c'est sa faute. Pas de PowerPoint pour cette étude, car c'est dur de mettre en image ce que nous allons voir. Mais nous allons ouvrir nos Bibles, et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles au psaume 19. Le psaume 19. Vous savez, on peut être émerveillé par la création, quelles que soient nos croyances. Mais une question demeure, cette question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je ne parle pas de la vérité du sentiment ou de l'expérience, mais je parle de la vérité de l'émerveillement. Est-ce que le fait d'être émerveillé reflète d'une manière authentique la réalité du monde dans lequel nous vivons? Lorsque vous allez au lycée en Suisse, vous aurez l'occasion de lire plusieurs livres d'auteurs français. Et on n'a pas énormément d'auteurs suisses, donc on lit les livres d'auteurs français. Enfin, 1 million de francophones, ça ne fait pas beaucoup pour la littérature. Et vous aurez l'occasion de lire les ouvrages de Balzac, d'Émile Zola, d'Albert Camus, d'André Malraux, de Jean-Paul Sartre. Et vous verrez quelque chose, vous ressentirez quelque chose en lisant ces livres. Et c'est l'absence d'espérance pour notre vie. Le message que nous recevons dans notre éducation, c'est que l'émerveillement est peut-être un sentiment réel, mais que lorsque nous regardons au-delà de nos sentiments, lorsque nous regardons les réalités de la vie, lorsque nous regardons les réalités de l'expérience, il ne reste que le pessimisme. Et le cynisme. Et peut-être un des plus grands arguments contre l'athéisme, c'est de lire leurs plus grands auteurs. Et en fait, à Genève, en mars de cette année, Max Donner est venu pour nous parler de la défense de la foi. Et la défense de la foi, c'était de prendre au sérieux ce que les athées croient vraiment. Et je vous invite à même aller, on a un site internet où on a ces enregistrements, et d'y écouter. Est-ce que l'émerveillement reflète la réalité ou pas? Vous savez, dans les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, on parle des miracles de Jésus, et le mot qu'il utilisait, c'est les merveilles, les choses extraordinaires qu'il fait. Mais Jean fait quelque chose de particulier. Il parle non pas des miracles, mais il change systématiquement le mot à signe. C'est les signes que Jésus fait. Bon, bien sûr, c'était des miracles, c'était des choses prodigieuses, des choses extraordinaires. Mais Jean nous dit que les choses extraordinaires renvoient à quelque chose d'autre de plus réel et de plus important. Lorsque Jésus a fait des miracles, on ne devait pas s'arrêter sur l'émerveillement, mais penser à qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que c'est vrai? Et Jean nous dit que les miracles de Jésus sont extraordinaires, pas à cause de sa puissance, mais à cause de la réalité qu'elle nous montre. Et ma conviction, c'est que la réalité de la création est identique à celle-là, qu'elle nous renvoie à une réalité plus grande et plus merveilleuse. Et nous ne devons pas être des pessimistes comme Malraux, comme Sartre, comme Camus, comme Zola ou comme Balzac. Mais nous sommes appelés à autre chose, à l'émerveillement devant la réalité du plan de Dieu. Alors j'espère que vous avez trouvé le psaume 19. On a déjà entendu 2 ou 3 fois aujourd'hui. Mais c'est le psaume qui commence au verset 2. « Avec les cieux raconte la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Et c'est cette description magnifique de tout ce que Dieu a créé dans le ciel. Mon prof d'Ancien Testament à la fac est entré un jour en classe. Il nous a dit « Lisons le psaume 19. » et on lit cette description extraordinaire qui va jusqu'au verset 7, qui parle du soleil qui s'élance à travers le ciel, et dit, lisons le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, et elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or fin, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Et il nous a regardé, il a dit, comment est-ce possible de passer de la splendeur de la création qui dépasse notre entendement et dire, mais malgré tout cela, au cœur de mon psaume, c'est la loi de l'Éternel. Je suis émerveillé par la création. Je suis émerveillé par tout ce que je vois. Mais la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Qu'est-ce que le psalmiste a compris que nous ne comprenons pas? Vous êtes sans doute déçus que je n'ai pas des extraordinaires images de la galaxie pour cet après-midi. Mais il y a quelque chose de plus extraordinaire que la création. Et le psalmiste de l'Ancien Testament, avec la révélation limitée que Dieu leur avait donnée, a dit, au centre de ce psaume, je ne vais non pas parler de l'expérience de ma vie, qui est à la fin du psaume, non de l'expérience de la création universelle, mais je vais parler du fait que Dieu a parlé à l'humanité. Et cela change tout. Dieu a parlé. Et voilà la merveille de la révélation. C'est que Dieu ne nous laisse pas seuls, mais que Dieu a parlé et que sa parole est vrai. Voilà ce que nous trouvons au cœur de l'émerveillement. Un Dieu qui existe, un Dieu qui est et un Dieu qui parle. Et Pierre a déjà mentionné, c'est plus d'une centaine de versets au psaume 119. Et le psaume 119 fait une chose et une chose seulement. Le psaume 119 fait l'éloge de la loi de Dieu de l'Ancien Testament. De nouveau, j'étais à la fac et pour notre dernière année d'études, on prenait des cours de séminaire. Alors un cours de séminaire, c'est énormément de lecture. On prend un texte biblique et on étudie pendant un semestre. D'accord, 16 semaines d'études intensives sur un seul sujet. Je m'inscris en entendant que ce prof est vraiment très très bon. C'était un autre prof. Très très bon séminaire sur l'Ancien Testament. Et deux semaines avant le cours, on reçoit le mail avec la liste de lecture. Et on apprend le sujet des 16 prochaines semaines, ce sera le livre de Lévitique. Et l'inscription de la classe passe de 20 personnes à 6 personnes. Et lundi, on va en cours, on est assis autour de notre table où nous allons discuter de Lévitique pendant 16 semaines. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 16 semaines? Et puis, des gens disent, ouf, je suis tenté, on va voir comment ça se passe, mais je suis tenté de laisser tomber. Comment passer 16 semaines sur le livre le plus ennuyeux de l'histoire biblique? Notre prof entre, il ouvre le psaume 1. Il dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Il nous regarde et dit, « Qu'est-ce que le psalmiste savait que nous ne savons pas ?» Et on se sent tous coupables. Parce que bien sûr, nous n'aimons pas la loi de Dieu, la parole de Dieu comme ça. Mais la merveille de Dieu et le plaisir se trouvent dans sa parole. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas vivre une vie émerveillée. Dieu est intervenu dans notre monde. Il est intervenu par des miracles, par des prodiges, par des signes, mais il est intervenu par sa parole. Et nous connaissons la puissance des mots dans nos vies. Les mots changent tout. Les mots ne sont pas un détail dans notre existence. Nous pouvons penser à des phrases qui ont entièrement transformé nos vies. La personne qui nous regarde dans les yeux et qui nous dit « Je t'aime » et nous savons que c'est vrai. La personne qui dit « Je te promets qu'il en sera ainsi » et nous savons que c'est vrai. Ces paroles que nous avons prononcées et que nous entendons les autres prononcer, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Ces paroles sont vraies et elles changent quelque chose. les mots ont une puissance pour transformer le monde. Karl Marx n'a pas changé le monde dans le communisme par une prédication, mais par un livre de paroles écrites. Et pour, malheureusement, très souvent le pire, mais des mots écrits ont changé le monde. Mais nous, nous avons accès à des mots d'espérance. Et Dieu a jugé bon de nous parler principalement, non pas par la révélation naturelle, ni même par les miracles, mais par des mots écrits et témoignés. Et si nous connaissons la puissance des mots humains, combien plus nous pourrons connaître la puissance des paroles de Dieu. Pensons à quelques-uns des textes que nous lisons dans l'Ancien Testament qui parlent des mots de Jésus lui-même. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et Jésus dit ceci ensuite. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est venu pour nous dire quelque chose qui amène l'Esprit de Dieu dans nos vies et qui amène la vie à ceux qui l'écoutent. Et Jean termine l'Évangile à la fin du chapitre 20 avec ceci, Jean 20, 31. Beaucoup d'autres choses à raconter, nous dit Jean, au sujet de Jésus. Mais ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous ayez la vie par ce qu'il a été écrit. Et Paul, s'adressant à Timothée dans ce texte que nous connaissons bien, 2 Timothée 3, 16 et 17, lui dit à ce jeune homme qui est prédicateur, mais qui souffre, qui est faible et qui ne se sent pas à la hauteur, et sans doute n'agit pas toujours à la hauteur. Lui dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu révélée donne la vie, donne l'accès à l'esprit, fait grandir en nous la maturité spirituelle que Dieu désire. Et donc Paul peut dire d'une manière tout à fait sincère en 2 Corinthiens 4, 7, ceci à propos de son ministère. Nous portons ce trésor qui est l'Évangile dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Mais nous portons un trésor, et c'est l'Évangile, c'est le message de Dieu. Je crois que si nous prenons le temps de regarder autour de nous, nous voyons cette puissance de la parole de Dieu. Je lis la Bible une fois par semaine en anglais avec une femme du quartier. Et elle est bouddhiste, elle n'est pas croyante, elle aime beaucoup Jésus, mais elle n'est pas encore arrivée à un stade dans sa vie où elle a la foi en lui. Mais on a discuté l'autre jour du fait que sa belle-mère, la mère de son mari, a été placée en maison de retraite, en EMS, parce que ça ne va plus avec l'Alzheimer, elle n'arrive plus à vivre d'une manière autonome. Et puis elle disait, on était en train de vider chez elle et on a trouvé beaucoup de Bibles qui appartenait à ma belle-mère. Donc je vous les ai amenés parce qu'il y a une église qui se réunit chez vous et vous en auriez peut-être envie. Ne voulant pas laisser passer l'occasion, je lui dis, est-ce que tu as gardé une Bible pour toi? Elle a dit, alors ça c'est des Bibles pour toi et tout. J'ai dit, non, est-ce que tu as gardé une Bible pour toi? Elle me dit, bon, mon mari a gardé une Bible pour lui. Et je lui dis, bon, est-ce que tu as gardé une Bible pour toi? Et puis elle a dit, elle voulait changer de sujet. Elle me dit, mon mari a commencé à lire sa Bible. Et il faut savoir, son mari, c'est quelqu'un de très timide, qui a eu beaucoup de contacts dans sa vie avant, avec des chrétiens de différentes confessions, mais qui a eu beaucoup de mauvaises expériences et qui s'est entièrement retiré de cela. Elle a dit, il a commencé à lire un Nouveau Testament. Et il le lit tous les jours. Et il est en train de changer. Je dis, vraiment, mais comment est-ce qu'il change? Elle dit, bon, il y a des choses qu'il fait différemment qu'avant. Un de ses amis lui a demandé de l'aide, il n'avait pas envie de l'aider. C'était trop fatigant, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et puis il a lu que Jésus a dit, la manière d'agir envers les autres, c'est de faire pour les autres ce que tu voudrais que je le fasse. Alors il a dit, moi je vais faire ce que Jésus a dit. Et cet homme qui n'a pas encore de foi, qui lit la parole de Dieu, et sa femme qui ne croit pas, dit, c'est en train de le transformer. Alors, je lui ai donné une de mes Bibles à la semaine suivante, parce qu'elle ne va pas s'en tirer comme ça. Et nous prions qu'elle la lise, et que cela la transforme aussi. Mais la parole de Dieu change. Il y avait un frère qui rendait visite à l'Assemblée de Genève, originaire du Tibet. Sa fille était en train de faire un stage à Genève avec l'ONU. Et puis, mon père a commencé à lui parler. Il a dit, mais comment es-tu devenu chrétien à quelqu'un du Tibet? Il a dit, bon, vous savez, on n'a pas le droit d'être chrétien, d'évangéliser au Tibet. Mais j'étais en train de marcher dans la rue un jour. Et j'ai vu un petit dépliant par terre. Et j'ai pris, et c'était écrit dans ma langue, le Dieu vivant. L'histoire du Dieu vivant. Et j'étais intrigué par cela, parce que je n'avais jamais entendu parler d'un Dieu qui est vivant. Qu'un Dieu personnel qui vit et qui agit. Il a dit, alors j'ai commencé à le lire, et je me suis procuré une Bible, et j'ai commencé à lire, et j'ai cru. Et des années après, toujours en grandissant dans la foi, il a rencontré un frère qui l'a baptisé. Et il a pu donner sa vie entièrement à Christ. Et il a dû même passer des mois et une longue partie de sa vie en prison à cause de sa foi. Mais il a vu les paroles de Dieu. Il a lu les paroles de Dieu. Et ses paroles l'ont transformé. Et Paul dit, ses paroles sont un trésor. Alors qu'est-ce qui ne va pas en nous lorsque nous ne voyons pas les merveilles et le trésor qui sont là? J'aimerais vous parler des merveilles du plan de Dieu. Mais si j'avais peur d'échouer en parlant de la création, là où c'est assez facile parce que c'est devant nos yeux, combien plus en parlant de ce que Jésus dit est un trésor caché pour lequel on est prêt à tout sacrifier. Ce trésor caché dans un champ, l'homme rentre chez lui, vend tout ce qu'il a pour avoir le trésor. Ça, c'est le message de la révélation de Dieu et de son plan. C'est l'homme qui cherche une perle et qui tombe sur la plus belle perle du monde et qui dit « Je vais vendre tout ce que j'ai. Je vais vendre mon entreprise de perles juste pour l'avoir, cette perle. » Quelque chose qui nous émerveille et qui vaut tout. Dans la Bible, dans les Écritures, je suis convaincu que nous trouvons la merveille du plan de Dieu si nous sommes prêts à la voir. Le mot qui est utilisé pour parler non pas de la loi que Dieu avait donnée et qui était bonne pour Israël dans l'Ancien Testament, mais pour parler de la grâce donnée à travers Jésus-Christ, c'est l'évangile. Et le mot évangile, c'est juste une retranscription du mot grec qui est euangelion. Et ce mot veut dire bonne nouvelle. Et l'euangelion, pour un grec, c'était l'annonce d'un mariage ou d'une naissance. C'était l'annonce d'un succès dans la vie. C'était l'annonce d'une victoire ou de la fin d'une guerre. Et nous, nous réunissons aujourd'hui le 11 novembre et pas le 12 novembre. Vous savez pourquoi? C'est parce que le 11 novembre est une journée d'Evangelion, d'évangile pour les Français et pour les Belges. C'est un jour où on a appris que la guerre était terminée. Il y a presque un siècle maintenant. Et on dit bonne nouvelle. Une si bonne nouvelle qu'on va s'en souvenir génération après génération de la bonne nouvelle que la guerre est terminée. Il y a un professeur d'université très très réputé aux États-Unis qui est décédé maintenant, qui s'appelait E.B. Sledge. Et c'était quelqu'un de particulier parce que c'était un professeur, quelqu'un de très éduqué, mais qui pendant la Deuxième Guerre mondiale avait décidé non pas de devenir officier dans son service pour le pays, mais de devenir un simple soldat qui se battait au front. Et il n'y avait presque personne d'éduqué aux États-Unis qui s'est battu au front. Et donc on n'a presque aucun témoignage qui a été écrit par un témoin oculaire des pires événements de la guerre, qui a été écrit par quelqu'un d'assez éduqué pour vraiment faire un bon livre à ce sujet. Mais vers la fin de sa vie, sa fille a trouvé son journal intime de ses années de guerre. Et le livre le plus horrifiant que j'ai jamais lu, c'est son livre basé sur ses expériences de cet homme qui a vu les pires horreurs de la guerre dans le Pacifique. Et des choses que je ne veux même pas mentionner sont tellement horribles. Et d'une manière très humble, qui explique et qui dit « Voici ce que nous avons vu, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous ressentions. » Je n'essaie pas de donner d'excuses pour cela. Je n'essaie pas d'expliquer cela. Mais voici ce qui s'est passé et les gens ont besoin de savoir. Mais il parle, vers la fin du livre, du jour où l'annonce de la fin de la guerre est venue. Et il dit, ils étaient en train de terminer la conquête d'Okinawa, préparer l'attaque pour le Japon, pour l'île principale. Et ils savaient que lorsque l'attaque allait commencer, ils seraient en première ligne, lui et ses amis. Et il dit, l'annonce est venue que la guerre était terminée. Il a dit, tout le monde s'est assis sans dire un mot. Et la raison, c'est qu'il ne pouvait pas gérer émotionnellement la réalité qu'il n'allait pas mourir. Il a dit, nous avons su ce jour-là que nous n'allions pas mourir. Parce qu'aucun de ceux qui étaient là, ceux qui avaient vu la guerre depuis certains des années, et qui allaient être la première volée d'hommes envoyés sur les champs de la mort, n'attendaient de survivre. Ils étaient convaincus d'une mort atroce et certaine. Il a dit, nous avons appris que nous n'allions pas mourir. Trop à gérer. Mais quelle bonne nouvelle pour lui. L'évangile devrait être cela pour nous. Dans une réalité qui semble désespérée, une crainte face à l'avenir, parce que nous savons qu'il y a un espoir qui va au-delà. Que malgré le fait qu'il y a des déceptions, des désespoirs dans la vie, que ce n'est pas la réalité ultime du monde. Vous savez, il y a un mensonge que nous ne devons pas croire, mais qui est répété sans arrêt et sans arrêt dans notre vie, et surtout pour les gens de mon âge et plus jeunes. Et ce mensonge, c'est que l'Évangile est une mauvaise nouvelle. Que l'Évangile est une mauvaise nouvelle, et qu'il faut se préparer à donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un lorsque nous leur parlons de Dieu. Si nous croyons à ce mensonge, cela détruira notre émerveillement, notre témoignage, et notre évangélisation. Jésus n'est pas venu pour nous donner une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Voici ce que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 42 et 43. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. L'accomplissement du plan de Dieu dans celui qui est venu de la part de Dieu, mais qui est rejeté, ça, c'est la merveille pour nos yeux. Le fait que celui qui est rejeté devient la fondation pour l'édifice de Dieu, pour son nouveau temple qu'il construit, ça, c'est la merveille pour nos yeux. Voici l'évangile, c'est que Dieu n'est pas resté impassible lorsque l'homme a péché et s'est condamné lui-même à la mort, mais que Dieu est entré dans ce monde pour offrir le pardon, qu'il est entré dans le monde non pas pour vaincre par la violence ou par la force, mais qu'il est venu pour souffrir et pour mourir à notre place, mais qu'il est ressuscité et qu'il règne à la droite de Dieu, et que dans le nom de Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés et l'espérance de la vie éternelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et j'aimerais juste vous partager quelques merveilles de l'Évangile. La première merveille, c'est que nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons connaître Dieu tel qu'il est. Un des arguments qu'on entend souvent lorsqu'on discute de la foi avec des non-croyants, c'est que Dieu est trop grand et trop extraordinaire pour que nous puissions le comprendre ou même parler de lui. Et ils ont raison. Mais Dieu a parlé. Et Dieu s'est révélé. Et Dieu nous a dit comment nous pouvons parler et le voir. Et nous pouvons parler de Dieu, non pas parce qu'on a compris quelque chose sur lui par notre réflexion, mais parce qu'il s'est révélé lui-même et que Dieu s'est fait connaître. Paul dit aux Athéniens, dans Actes chapitre 17, 23 et 24, aux Athéniens qui sont l'élite philosophique et intellectuelle de leur peuple, dit ceci, « C'est en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion que j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Un Dieu inconnu. Et ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. La proclamation pour Paul, chaque fois qu'il est face à des païens, à ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu de l'Ancien Testament, c'est toujours ceci. Le temps d'ignorance est passé et Dieu nous appelle à la connaissance. Le païen regarde la création et doit l'adorer comme Dieu parce qu'il n'y a rien d'autre à adorer. Mais avec la beauté vient la mort et la souffrance et l'injustice de la création. Et cela se reflète dans les actions. L'athée regarde le monde et voit les merveilles, mais sait qu'il n'y a personne qu'il peut remercier. Mais Dieu entre dans le monde en Jésus-Christ et dit, « Vous pouvez me connaître en Jésus. » Le prologue de l'évangile de Jean dit ceci, dans Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est inconnaissable. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons connaître Dieu en contemplant sa parole, en la lisant. Mais nous pouvons connaître Dieu en apprenant à connaître Jésus, son Fils. Et Jésus qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que nous cherchons à connaître Dieu? Mais avec cette connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, il y a une relation. Car Dieu ne dit pas, voici des traités philosophiques sur qui je suis, faites de votre mieux. Mais Dieu nous dit, vous pouvez me connaître, mais moi je vous connais déjà. Dieu sait qui nous sommes, il connaît nos secrets cachés. Dieu connaît les péchés que nous avons commis que personne d'autre ne connaît. Il connaît nos pensées secrètes, le psaume 139 en témoigne. Nous pouvons cacher qui nous sommes vraiment au monde entier. Nous pouvons porter un masque et personne ne saura qui nous sommes vraiment. Mais celui qui a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, nous dit, je t'ai vu et je sais qui tu es vraiment. Et nous sommes connus par le Créateur de l'univers, celui qui a fait des centaines de milliards d'étoiles, nous connaît en tant qu'individu. Nous pouvons le connaître, mais il nous connaît aussi. Et donc nous arrivons à la deuxième merveille de l'Évangile. Non seulement Dieu s'est fait connaître et nous connaît, mais Dieu est digne de notre reconnaissance, parce qu'il nous a pardonné et il nous a aimés. Nous connaissons en Jésus le pardon de Dieu. Dieu nous connaît au plus profond de qui nous sommes. Et vous savez, lorsqu'on confesse un péché à quelqu'un, lorsqu'on montre, on se rend vulnérable devant quelqu'un, montrant nos faiblesses, nous avons peur de quoi? Donc ils vont nous rejeter, qu'ils vont nous juger, qu'ils vont parler de nous aux autres lorsque nous ne sommes pas là. Et nous avons peur de perdre quelque chose lorsque nous sommes pleinement connus des autres. Et en même temps, nous avons ce désir, je crois sincèrement, qu'on nous connaisse et qu'on nous aime tel que nous sommes. Mais est-ce que nous croyons que cela est possible? Bon, le témoignage de l'Évangile, c'est que Dieu nous connaît tel que nous sommes et qu'il nous aime tel que nous sommes. L'amour de Dieu s'exprime dans son pardon. Pierre dira à Corneille et sa maisonnée qui représentent le monde païen, le monde qui a vécu sans Dieu, dans Actes 10, 43, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est-à-dire croit en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Est-ce que vous avez vu une classe de gens exclus de cette promesse? Est-ce que vous avez vu des gens qui ont tellement péché qu'ils sont exclus de cette promesse? Il n'y en a pas. Pierre dit, poussé par l'Esprit, quiconque croit en son nom reçoit par son nom le pardon des péchés. Et quiconque veut dire tout le monde, d'accord, si vous n'êtes pas sûr. Dieu offre le pardon à tout le monde. Il y a des gens qui passent leur vie croyant en Dieu, croyant au pardon de Dieu, convaincus que le pardon de Dieu n'est pas suffisant pour leur vie. Et ils vivent dans la crainte qu'un jour, lorsqu'ils seront face au trône de Dieu, Dieu va les rejeter. Et Dieu dira, ton péché est trop grand pour mon amour. Cette crainte est pernicieuse. Cette crainte peut nous détruire, même ceux qui sont pleins de bonté et d'amour pour Dieu. Mais nous apprenons dans l'Évangile que Dieu aime et Dieu veut pardonner. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, nous dit Paul dans 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'il désire, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire sauver, et Dieu aime, et il veut pardonner. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup de peine avec le pardon. Mon père et moi avons le privilège de pouvoir prêcher et enseigner et passer du temps dans une maison de retraite dans notre quartier. Et pendant que je faisais mes études, j'ai pu faire même un stage d'une semaine avec l'aumônerie là-bas. Je parlais avec l'aumônier, et on discutait des différents aspects de la vie là-bas, et comment c'est d'être aumônier. Il m'a dit, mon travail le plus important que je vois, c'est un travail de réconciliation. Il y a tellement de personnes dans cette maison qui ne parlent plus à un frère ou une sœur, qui ne parlent plus à un fils ou une fille, ou un petit-fils et une petite-fille. Et ils sont maintenant isolés de leur famille. Et ils savent que leurs jours sont comptés. Mais il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de pardon. Et son travail, il disait, un de ses travaux les plus importants, c'était d'appeler ces gens et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait du pardon et des réconciliations. Mais la réalité, peut-être nous ne le voyons pas encore, c'est qu'au fil des années, nous aurons de plus en plus besoin de pardon. Mais dans le monde, nous n'en trouvons pas suffisamment. Et si nous ne la trouvons pas en Dieu, nous terminerons un jour près de la mort, avec des relations brisées qui ne peuvent pas être réparées. Nous mourrons seuls, soit par la séparation et le manque de pardon, soit par la mort. Et si ça, c'est la réalité finale que le monde nous offre, cela ne vaut presque pas la peine d'être vu. Mais Dieu dit, il n'en sera pas ainsi avec moi pour l'éternité. Vous ne vivrez pas sans pardon pour toujours, mais j'amène la réconciliation. Et donc, Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour le pardon pour nous. Et nous voyons, donc nous comprenons que Dieu nous aime parce qu'il nous connaît tel que nous sommes et il nous pardonne pour les péchés que nous ne méritons pas. Et nous ne méritons pas ce pardon qui est là. Et ça, c'est un témoignage de son amour. Trouvez quelqu'un qui vous pardonnera les pires péchés que vous avez commis contre eux. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous aime vraiment. Et si vous êtes marié, vous voulez être le mari ou l'épouse de cette personne, n'est-ce pas? De cette personne contre qui vous pouvez pécher et dont la repentance, il vous pardonne pleinement et entièrement. Mais nous voyons l'amour non seulement dans le pardon, mais dans le fait que Dieu nous a pardonné à travers un sacrifice. Ce n'est pas juste que Dieu un jour a dit « Tous les péchés sont pardonnés. » Ça va, on n'en parle plus. Tel n'est pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu a coûté quelque chose. La Bible nous enseigne que Dieu ne pouvait pas juste pardonner par une parole, mais qu'il y avait un prix à payer pour tout le péché du monde. Et Dieu a dit qu'il paierait le prix pour nous, même si cela coûtait l'agonie, la souffrance et l'humiliation de son Fils, et même si la majorité du monde rejetait ce pardon, que Dieu était prêt à payer le prix. Et soyez-en convaincus, il ne pouvait pas être autrement, car Jésus a supplié son Père dans le jardin de faire autrement. Et Dieu a dit non. Il n'y avait pas d'autre moyen pour notre pardon. Mais Paul s'exclame, Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le pardon a coûté tout à Dieu, lui a tout requis. Et nous chantons dans un de nos chants, « Roi des rois, nous t'avons tué sur une croix au lieu de t'acclamer. Tu savais ce qui t'attendait, mais tu t'es dit que j'en valais tout le prix. » Dieu nous aime, il nous pardonne, mais il dit « Vous en valez tout le prix. » Et pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il dit « Vous en valez la peine. » Bon, il y a la connaissance, il y a le pardon, il y a la relation avec Dieu, une relation d'amour. Il y a cette preuve de l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus. Et si un jour vous commencez à douter que Dieu vous aime et que Dieu vous pardonne, relisez les évangiles, s'il vous plaît. Relisez ce que la Bible nous dit est le témoignage final de l'amour de Dieu et c'est le sacrifice de Jésus. Ce ne sont pas vos émotions du moment. Ce n'est pas votre prospérité matérielle. Ce n'est pas votre succès dans votre ministère pour l'Église. Ce n'est pas l'approbation de ceux que vous aimez. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Et si vous avez cela, vous avez tout. Et battons-nous contre les émotions qui disent autrement. Battons-nous contre les autres critères pour mesurer l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que la croix qui est suffisante pour l'amour que nous cherchons. Mais il y a encore une autre chose, c'est l'espérance de la vie éternelle. Quand j'ai fait la liste des choses qui tuent l'émerveillement, une des choses, c'était les déceptions de la vie. Mais est-ce que la réalité est si misérable? Est-ce que lorsque nous sommes émerveillés de la vie, est-ce que nous avons la tête dans les nuages, ou est-ce que nous avons les pieds fermement dans la réalité? Dont la bonne nouvelle et la merveille de l'Évangile, c'est que l'émerveillement de maintenant n'est qu'un avant-goût du ciel. Ce n'est pas un tour que nous jouent nos cerveaux, mais c'est la réalité, un avant-goût de la réalité éternelle. Nous ne vivons pas pour cette vie uniquement. Nous vivons pour une vie éternelle d'émerveillement. 1 Jean 3, 2 dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Déjà maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, par contre, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je vais relire ça. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire lorsque Jésus revient, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons le Créateur de cet univers extraordinaire. Nous verrons celui qui a souffert et qui est mort pour nous. Nous le verrons tel qu'il est. Plus rien pour le cacher. Et ça, ce sera l'émerveillement éternelle. Les déceptions, les échecs, la maladie, la séparation, la honte, la rancune, la division, la faiblesse, l'injustice, la crainte qui font partie de notre quotidien tuent notre émerveillement. Mais l'Évangile nous dit que cela n'a pas le dernier mot. Mais le dernier mot, c'est la vie, c'est la gloire pour toujours auprès de Dieu. Toutes ces choses qui nous font douter de la bonté du monde et par conséquent du Créateur seront effacées un jour pour toujours. Ces choses auront une fin et le jour de leur fin approche. Chaque jour, nous sommes plus proches de l'éternité. Et nous ne serons plus émerveillés de manière brève et passable, mais nous serons émerveillés de manière permanente. C.S. Lewis fait dire dans cette discussion entre les démons, dans Tactique du diable, qu'il faut éviter de faire vivre le patient, d'accord, le jeune chrétien tenté, dans le présent. Car lorsqu'on est dans le présent, on se rapproche de l'éternité. Nous serons pour toujours dans le présent, face à la réalité telle qu'elle a, pas inquiet pour l'avenir, pas nostalgique pour le passé, mais pleinement content du présent. Et lorsque nous sommes émerveillés, c'est à ce moment-là que nous goûtons du paradis. Car nous sommes face à la réalité et face au présent d'une manière pleine. Paul dira aux chrétiens de Corinthiens 15, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ta victoire ?» Ah, quelle belle parole. Mais elles sont vraies. Ce ne sont pas juste des belles paroles pour nous aider à souffrir en silence. Ce ne sont pas juste des mots pour nous aider à passer le cap de la mort, après quoi il y a le néant. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Souvent, on parle du fait que quelque chose est trop beau pour être vrai. Mais apparemment, l'auteur de Narnia, C.S. Lewis, a dit, et j'ai cherché la citation, je n'ai pas trouvé, donc c'est peut-être apocryphe, mais en tout cas, c'est vrai, que l'Évangile est trop beau pour ne pas être vrai. Il existe une seule histoire dans le monde qui répond à tous nos besoins spirituels, émotionnels, physiques. Et c'est l'histoire de l'Évangile. L'Évangile qui nous dit, nous pouvons connaître celui à qui nous devons dire merci pour cette création. L'Évangile qui nous dit, nous pouvons avoir une relation d'amitié et d'amour avec Dieu. L'Évangile qui nous dit que le pardon existe pour de vrai. L'Évangile qui nous dit, vous avez une valeur qui a été payée, un sacrifice a été fait pour montrer l'amour de Dieu. Et il y a un Évangile qui dit qu'il y a un avenir qui continue pour vous, et ce n'est pas le néant et le désespoir. J'espère pour nous que nous pourrons avoir cette réalité dans notre cœur. Voici ce que Paul a prié pour les chrétiens. Dans Éphésiens 3, versets 17 et 19. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire pour nous, d'accord, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Que cela soit la réalité pour nous. Alors, j'aimerais vous donner quelques stratégies pour que cela soit plus que des belles paroles. Oh, j'espère des belles paroles, là je suis un peu arrogant, désolé. Des paroles, un après-midi, mais que ce soit une réalité pour nous. Comment être des gens émerveillés dans le quotidien? Bon, nous devons lire la parole que Dieu nous a donnée. Pas juste l'écouter une ou deux heures par semaine, mais nous devons lire la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas, comment est-ce que nous pourrons savoir que le monde est merveilleux et que la révélation de Dieu est merveilleuse? Nous devons méditer sa parole. Et souvent, quand on dit méditer aujourd'hui, on pense faire le vide dans son cerveau. Mais méditer, ce n'est pas faire le vide, mais c'est faire le plein sur quelque chose qui a de la valeur. On peut parler avec un ami qui est prédicateur, que certains d'entre vous connaissent, mais je ne vais pas le nommer, et il parlait de l'étude biblique. Et son ami a dit, parfois, je m'arrête sur un verset et j'y réfléchis pendant un quart d'heure. Parce que c'est si extraordinaire ce que Dieu est en train de dire. Mon père a dit, waouh, j'aimerais être comme ça. J'aimerais pouvoir m'arrêter, m'attarder sur ce que Dieu dit et penser à ce que ça change, à cette réalité, à cette beauté qui est là. J'ai fait des études en maths, on se moque beaucoup des mathématiciens passionnés. Vous savez pourquoi les mathématiciens sont passionnés par les maths ? Bon, parce qu'ils ont passé suffisamment de temps dessus pour voir sa beauté. Ça vient en tout cas 5 ans de travail, je vous promets, c'est pas comme ça, mais c'est très très beau, mais il faut passer du temps et des heures et des heures et des heures d'amélioration là-dessus. Bon, si c'est possible avec les maths, combien plus avec l'évangile de vie. Méditons ce que Dieu a fait pour nous. Comme Pierre a dit, pensons à toutes les bénédictions que nous recevons, aux merveilles autour de nous. Faisons taire le bruit dans notre monde. Nous vivons dans une société qui est axée sur les études, la carrière et le divertissement. Ces choses ne sont pas merveilleuses. Les études et la carrière sont importantes, elles ont leur place dans notre vie, mais ce n'est pas cela qui nous donnera les merveilles de notre vie. Si nous remplissons notre vie de divertissement, nous nous privons de quelque chose. Si tout ce que nous cherchons dans la vie, c'est notre carrière, nous nous privons de quelque chose. S'il vous plaît, faites taire le bruit dans votre vie pour apprécier ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment. Il faut que nous apprenions à nous arrêter de manière quotidienne. Non seulement à faire taire le bruit, mais tout arrêter pour regarder autour de nous, pour regarder dans la parole et nous demander qu'est-ce qui est merveilleux dans cela. Un de mes auteurs préférés, donc c'est G.K. Chesterton, c'était un philosophe anglais. Il est considéré même aujourd'hui comme un des plus grands génies littéraires anglais du XXe siècle. Quelqu'un qui embêtait beaucoup de gens, qui était journaliste très léger. Mais il a un livre qui en anglais s'appelle Tremendous Trifles, qui veut dire des choses inimportantes d'une importance extraordinaire. Et c'est juste un livre d'essai où un jour il a dit, je vais m'asseoir, je vais regarder des choses dans ma pièce et je vais faire l'éloge du pied de cette chaise. Et puis il écrit un essai de 15 pages pour nous dire à quel point le pied de cette chaise est extraordinaire. Et on lit le texte et on dit, mais il a raison. Je suis sérieux. On dit, mais il voit la beauté, ce qui est extraordinaire dans le fait qu'il y a des chaises dans ce monde et que ces chaises ont des pieds et cela change tout pour nous. Et on dit, mais comment voir le monde comme cela ? Comment regarder un rouleau de sopalin et dire, voici quelque chose d'extraordinaire ? Mais seulement si on s'arrête, est-ce qu'on peut voir cela ? Mais finalement, il nous faut prier. Vous savez, prier, ce n'est pas juste dire à Dieu, donne-moi telle et telle chose. Prier, c'est entrer en communion avec le Créateur de l'univers. Et c'est apprendre à voir le monde comme il le voit. Priez les psaumes, si vous ne savez pas quelle prière prier. Et vous apprendrez à voir le monde comme les psalmistes l'ont vu. Eux qui ont aimé la parole de Dieu et qui ont aimé la création plus que nous, nous pouvons parfois espérer le faire. Mais apprenez à être des gens de prière et qui recherchent les merveilles de Dieu. Et finalement, nous n'aurons pas une vie émerveillée par Dieu sans l'Église. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs pour nous rappeler l'émerveillement de Dieu. Nous sommes appelés à louer Dieu, mais à louer Dieu avec nos frères et sœurs. Et la réalité la plus concrète aujourd'hui, pour maintenant, de l'émerveillement, c'est nos louanges. C'est lorsque nous chantons ensemble dans la beauté des paroles qui sont vraies, qui reflètent les merveilles de Dieu. Et donc soyez attachés à l'Église. À vos frères et sœurs, pas le bâtiment, mais les personnes, pour que vous soyez des gens qui peuvent grandir dans l'émerveillement de Dieu. Et un jour, nous le connaîtrons. Et un jour, nous le verrons. Et ce ne sera plus juste un instant d'émerveillement, mais l'éternité dans la présence de Dieu.
Prions ensemble, si vous voulez bien, avec les enfants. Notre Père, nous te rendons grâce pour le zèle que tu as mis dans ton serviteur Justin, pour l'esprit dont tu l'as rempli pour partager ta parole. Et nous te remercions, Père, pour ta présence et pour le plan de rédemption que tu as accompli pour nous. Et Père, nous te prions pour que nous sachions mieux comprendre et réaliser l'amour que tu nous donnes chaque jour et l'amour infini que tu nous as manifesté en ton Fils. Nous avons du mal à le comprendre et nous voulons, Père, encore trop souvent nous reposer sur notre propre justice, nos capacités, alors que tout dépend de toi et de ta grâce. Nous te prions, Père, aussi, nous te remercions pour le fait que ton Fils s'est incarné, qu'il a revêtu complètement la condition humaine et il est venu nous rejoindre là où nous étions. Nous te remercions, Père, pour cette sagesse infinie qui nous étonne et qui nous émerveille, que ce plan de rédemption, tu l'avais prévu même avant toute éternité, et que tu l'as accompli progressivement, et que tu l'as accompli parfaitement en ton Fils. te remercions aussi, Père, pour le fait que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons. Et nous te remercions, Père, pour le fait que tu donnes de la valeur à chacun et à chacune. Et de nous prendre conscience de cette valeur que tu nous donnes et sa grâce à ton Fils. Et c'est dans son nom, Père, que nous te prions.